Oui, mon cher ami.
Pourquoi est-ce que si c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit, comme c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit, c'est un livre de la Torah, pourquoi est-ce que c'est pas écrit en première personne du singulier? Pourquoi c'est pas marqué Vaïdaber Hashem Elai, le Moré Ben Israël?
Parce que c'est pas un texte que Dieu donne à Moïse. Moïse est le messager de Dieu vers Amisraël.
Après, on aurait pu dire Dieu m'a dit de dire au Ben Israël, on aurait pu, ça peut être dans la forme, ça aurait pu être comme ça.
C'est pas direct. Un prophète toujours vient, il parle au peuple d'Israël. Néoum Hachem, discours de Dieu. Ta 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 ta, pourquoi tu as fait ça Israël? C'est l'organe, le prophète, il est l'organe d'expression de Dieu. Comme un téléphone. Allô? Téléphone te dit, écoute, on m'envoie là-bas un message de New York, que le téléphone il te parle. Non, c'est New York qui te parle au téléphone. Il te parle à toi directement. Le téléphone, c'est un... qui doit être humble, comme Moshe, transparent. Et que l'organe qui fait passer. Tellement humble qu'il ne fait pas écran. Et quand Dieu lui parle, il ne se met pas à trembler. Parce qu'il n'y a rien. Il sait qu'il n'y a rien. Donc c'est le message de Dieu qui parle, qui passe directement. C'est pas qui dit à Moshe, Moshe, écoutez, Dieu m'a dit de vous dire. C'est marqué un ou deux endroits dans la Torah. Moshe parle de lui-même. Dieu s'est mis en colère contre moi à cause de vous. À cause de vous d'ailleurs. Pourquoi? Je suis rien moi. Moi je suis rien. Ce que vous êtes, je suis avec vous. Vous êtes en haut, je suis en haut. Vous êtes en bas, je suis en bas.
Est-ce que pour faire tchouva, en fait, c'est pas la condition sine qua non d'être humble? Si on n'est pas humble, on peut faire tchouva ou pas?
Je te dis, l'humilité de Zichrona Livracha, c'est une chose qui était très rare et très dure à travailler. Quand moi j'ai demandé la rabbinisation d'Abba Shaoul, il y a 16 ans, Kvod Harav, comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'humilité? C'est un homme qui était très humble, lui. Une fois qu'il a fondé le bus, d'abord, il faisait un mot, il était gratuitement, toujours. Donc, il allait en bus. On l'invitait gratuitement, il partait, il prenait le bus pour des fois dans d'autres villes, tout ça, le bus. Enfin, je me souviens, il y a eu un enterrement, le Rav Mordechai Sharabi, c'était un grand kabbaliste ici. Je me souviens, ça m'a beaucoup, je ne connaissais pas encore le Rav Ben Sion. Il était venu en voiture. Quelle voiture? Le taco, le plus petit, le plus taco qu'on pouvait trouver. Il était un peu fort, Rav Ben Sion. Ils pouvaient rentrer dans la voiture, c'était la Mini Moréa Fiat 124. Ils auraient pu prendre n'importe qui en Mercedes aussi. Un jour, il attendait le bus. Et tout à coup, le conducteur de bus à l'israélienne s'arrête. Il lance une serviette. Tiens, nettoie-moi la vitre. Qu'est-ce qu'il fait? Kvod Harav, Roche, Yeshivat Porat Yosef. C'est pas un monsieur, d'accord? C'est le monsieur le plus grand du monde. Dans les deux, trois plus grands du monde. Ou le plus grand. Pas de problème, il prend, il monte sur le capot. Il commence à nettoyer. Quelqu'un est venu, Kvod Harav, tout ça est descendu. Hein. Simple.
Il y a une histoire comme ça aussi de quelqu'un qui s'est fait uriner dessus dans un bateau. Et qui dit qu'il est très très heureux. C'est comme...
Chavotel Vavot, il raconte ça. De devoir des corps. Il raconte que le jour où je suis arrivé à un point où quelqu'un m'a dit, c'est ma salle absolument rien fait. Bon, c'est des degrés extraordinaires d'humilité. D'humilité.
Faut pas avoir un minimum quand même de...
Un minimum d'abord.
Oui. Mais il est où le minimum? Il est bien moins que ce que nous imaginons. Ça, alors, je vais demander comment on fait, Kvod Harav. Comment on fait? Il était humble, lui. Comment on fait pour l'humilité? Il m'a dit, je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas. Moi, humble, je vais te dire maintenant comment on fait pour être humble. Je viens de donner un cours d'humilité. Apprends à être humble. Prends exemple sur moi, par exemple. C'est très humble de parler comme ça.
Si pour l'humilité, c'est difficile à travailler, pour la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, ça se travaille.
Qu'est-ce que ça s'appelle crainte de Dieu?
Crainte, ça veut dire que t'es ava, que t'es amour de Dieu, que t'es crainte.
Regarde, je dirais comme Robinson, c'est difficile pour moi de parler d'une chose que je ne connais pas. La crainte dans le sens, la crainte. Sincèrement, je ne connais pas. J'ai tendance, vu que c'est un mot qui est très utilisé, et un peu à tort et à travers, en tout cas moi, quand je parle aux gens, quand je traduis toujours crainte par conscience de Dieu. J'imagine que plus quelqu'un a la conscience de Dieu, plus il a certaine kavod, un respect, une certaine crainte, on va dire. Quand tu vois un grand chacham, un grand sage d'Israël, tu as du respect de son automatique, tu as un sefer Torah. Maintenant, si nous avions vraiment une grande conscience de Dieu, alors on aurait une crainte. Une fois un élève qui m'a raconté un Baal Shuva, il peut aller Shiva, qu'il a prié Dieu que Dieu se fasse connaître. Il voulait connaître Dieu. Alors il paraît qu'une fois, alors en rêve, il a tout le coup il a rêvé et il a compris que Dieu allait montrer un peu. Bon, il n'a rien vu du tout, mais il a été pris d'une terrorisé, réveillé en terreur. Ça, c'est quelqu'un qui peut voir un peu crainte de Dieu. Les prophètes, ils étaient trempés en convulsion par terre. Ils ont dit, ok, là, je crois en Dieu, j'ai ma vie. Shulchan Aruch dit, comment est-ce qu'on en a parlé l'autre jour ici un peu de pudeur, d'accord? Comment tu peux aller avec torse nu comme ça alors que la présence de Dieu remplit le monde? Les gens ne comprennent pas. Quoi présence? Où ça? Ça, c'est prendre la conscience de Dieu, alors elle vient. Avec la connaissance de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la connaissance de sa Torah, lentement, on acquiert une certaine conscience de Dieu qui va en grandissant. Crainte, je ne sais pas ce que je peux dire, théoriquement je peux en parler. Conscience de Dieu, oui. Et j'imagine que la conscience, elle grandit avec la connaissance. Le Rambam dit que quand quelqu'un regarde le monde, alors il ne peut que tomber amoureux de Dieu. Contemplation de l'univers, amoureux. Et dès qu'il comprend un peu combien Dieu est infini et grand, alors il est pris d'une crainte terrible. C'est Maïmonide. Lui, quand il mettait les tefs, Maïmonide, il tremblait, tout son corps tremblait. Parce qu'il était en communion avec Dieu, en communication avec Dieu.
Donc, on peut l'aimer énormément.
Pardon ?
Ça veut dire, ça peut être, quand on prend conscience de cette grandeur, on peut l'aimer énormément.
Oui.
Et c'est ça, si vous voulez, les constatations, je vois que pour beaucoup, ils s'arrêtent à de l'amour, l'amour véritable.
Oui, c'est déjà bien s'arrêter à l'amour.
C'est très bien.
Beaucoup qu'il y en a qui s'arrêtent avant l'amour.
La crainte, ça permet souvent d'être plus dans ses voies, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors, il y a une chose qu'aujourd'hui les gens traduisent comme manifestation de la crainte de Dieu que quelqu'un a, c'est dans quelle mesure tu fais attention de ne pas faire un péché. Tu as une tentation, tu es tout seul, tu peux arrondir un peu les angles. Non, tu ne fais pas. Pourquoi tu ne fais pas? Appelons crainte de Dieu, conscience de Dieu, conscience de ces choses-là proviennent de Dieu, donc elles sont graves, je ne peux pas les toucher. Ouais. Mais crainte dans le sens, j'ai peur, je suis terrorisé, humblement je ne connais pas. Mais un respect énorme, on va dire, plus que cela, une conscience de la magnificence, de l'énormité gigantesque, infinie. Quand on y pense, ça peut te laisser un peu muet.
Quand la chair viendra, tout le monde tremblera aussi comme celle de la chair.
C'est terrible. C'est marqué dans le prophète que les gens vont aller se cacher dans les grottes du dévoilement de Dieu. Et après tout, on demande quand même qu'ils viennent.
Mais c'est une vie comme ça, vivre comme ça, c'est une vie.
C'est exactement ce que Bnei Israël ne voulait pas lorsqu'ils ont su le Mont Saint, ils ont fait le veau d'or. Quand tu es face à la vérité absolue de Dieu, c'est intolérable quelque part de... C'est trop aveuglant. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire la vérité. C'est... La présence de Dieu, elle est omnisciente, omniprésente, omnitotale, grande. Donc cette coupe presse de tous les arbitres. Pour ça que le prophète dit, voici venir des jours où on pleurera. On pleura, en bichefet, je n'ai pas envie de ces jours. Alors on peut comprendre que je n'ai pas envie de ces jours, ce sont des jours dans lesquels je n'ai pas d'envie, on n'a plus d'envie. On sera modulé uniquement par la vérité de Dieu. Alors quelque part, c'est ce qui s'appelle que Dieu vient et prend les serras et les gorges. Il n'y a plus de mal. Alors c'est bien, oui, c'est fantastique, enfin, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de Ilan Halimi, il n'y a plus de terroristes, il n'y a plus de couples qui cassent, il n'y a plus de malheureux, il n'y a plus de maladies, mais il n'y a plus d'être. Il n'y a que Dieu. On le voit, on le sert, on l'aime. Mais où est le challenge? Où est maintenant l'effort? C'est moi qui décide. j'ai un choix dur, et c'est moi malgré tout qui fais, ça aura presque complètement disparu. Il y aura encore les mitzvot, il y aura encore, et parmi les autres, les mitzvot de tshuva, c'est-à-dire qu'il y aura encore possibilité de faire des erreurs. Bon, ce ne sera plus qu'une tshuva de ahava, ce sera une tshuva d'amour. Est-ce que je suis plus ou moins proche de Dieu? Mais le péché volontaire que quelqu'un peut faire n'existera plus à l'époque messianique. Donc quelque part c'est bien, quelque part c'est pas bien du tout. Pour le klal, pour la collectivité d'Israël, c'est très bien. Parce que nous devons prier que Mashiach vienne. On doit demander, on demande sans cesse entre les bons juifs que la Géoula vienne, dans le Berkat Amazon, dans la Médane, dans le Shemona, Israël demande enfin que vienne la Géoula, sans cesse tu l'as, toutes les sauces. Demande le Chavetz Raïm, oui, mais pour nous c'est pas bien. Parce que quand vient, c'est comme le jour de la mort. Qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Avant la mort, tu es ici dans ce qui s'appelle la vie. Tu as choix entre bien et mal, tu as libre choix. Tu as une guerre, c'est difficile. Mais quand tu fais, tu es. C'est grâce à. C'est toi-même qui fais. Le jour de la mort, qu'est-ce qui se passe? Le corps, terminé, avec toutes ses envies, il ne reste plus que la neshama. L'âme, elle voit Dieu. Elle va dans le monde du bien, elle voit la vérité. Mais elle n'a plus de choix. Elle ne peut plus maintenant décider, oui ou non. Tu es face à Dieu. L'époque messianique, c'est la mort. C'est à peu près exactement la même chose. Alors pourquoi prier pour la mort? J'ai mieux qu'on priait pour mourir. Là, on prie que vienne la Géoula. Oui. Parce que, au niveau de la collectivité dans le monde, c'est une situation anormale. Que Dieu est le maître du monde. Et celui qui donne tout le bien au monde, et ce n'est pas reconnu. On appelle ça Chilou Hashem. Profanation du nom de Dieu. Dieu n'est pas connu. Or, il est le maître du monde, c'est une situation complètement anormale. Et nous, par amour de Dieu, nous ne voulons pas qu'il y ait une situation anormale, c'est une situation de mensonge. Je ne veux pas qu'il y ait des mensonges, je veux qu'il y ait vérité. On veut un monde de vérité. Il est inhérent, naturel à quelqu'un qui a soif de vérité, qui veut que le mensonge disparaisse. Ah, quand un mensonge disparaît pour toi, de façon privée particulière, c'est mauvais. Ok, mauvais. Mais je ne peux pas supporter que le monde vive dans le mensonge. Où est la vérité? La vérité, elle est en exil. La shrina, ce qu'ils appellent la shrina, la présence de Dieu est en exil. Dieu, il est où? Pourquoi il y a des malheurs? Pourquoi il y a la Shoah? Pourquoi il a un ennemi? Pourquoi des trucs pareils? Et pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? C'est un tzadik qui souffre et l'autre, un rachat, regarde comme il vit bien sa vie. Donc, on est dans un monde d'obscurité. C'est pas normal. Donc nous qui sommes assoiffés de vérité, nous voulons qu'il y ait enfin le règne de la vérité, donc le règne du bien dans le monde. Mais c'est au niveau collectif, pour le bien du monde. Nous, au niveau privé, on perd. Mort! Fini, on a des compteurs, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Zéro, terminé. Dévoilement de la vérité totale. Tu n'as plus d'être avec un libre-arbitre qui peut avancer beaucoup en peu de temps. On pourra avancer peu en beaucoup de temps. On avancera, ce sera génial, fantastique, mais c'est marqué que les tzadikim, ils n'ont pas de repos ni dans l'amazé, ni dans l'amaba. On avance sans cesse. Chaque fois, une nouvelle compréhension, une nouvelle profondeur, une nouvelle connaissance de Dieu. Infini. Jamais ça s'arrêtera. Jamais ça s'arrêtera. On se fait peur quand on y pense. La nuance qu'il y a entre ici et là-bas, c'est que là-bas, c'est fait dans le plaisir le plus grand qu'il puisse y avoir. Ici, c'est fait dans l'effort. Mais repos, qu'on ne fait rien sur le hamac, ça n'existe pas. On sera en sens éternelle progression. Pas de repos. Nuance entre ici et là-bas, là-bas dans le plaisir, ici dans l'effort difficile. L'effort que nous faisons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de l'obscurité, donc j'y suis pour quelque chose. C'est moi qui fais l'effort de me battre contre l'obscurité et de créer ma propre lumière, ma propre réalité de vérité. Quand ma chair revient ou quand on meurt, après 120 ans, alors on continue à monter. On monte, on voit Dieu, c'est extraordinaire, extraordinaire. Bon, on ne fait rien pour, c'est l'ascenseur. Tu montes tout seul. C'est le bagage que tu t'es créé ici. Donc quelque part, quand tu montes dans l'ascenseur, on dit, ouais, c'est terminé mon vieux, maintenant tu vas te laisser porter. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Oui, c'est bien d'un côté, mais vu que je ne peux plus rien faire, je suis que sur la lancée de laquelle on m'a envoyé, je me suis envoyé moi-même, quelque part je regrette quand j'étais ici, et c'est là qu'on peut faire. Messieurs, et demain, bien ma chère, on ne peut plus rien faire. Il faut faire vite.
Grave, aujourd'hui, on ne peut pas faire progresser les âmes des défunts par nos actions?
Oui, et combien on va faire? Dis Kadish, dis... les enfants faits, les petits-enfants faits. Oui, c'est marqué que les défunts sont jugés chaque Rosh Hashanah pour toutes les conséquences de leurs actes qu'ils ont faits. Bon, quelqu'un a mis au monde un enfant qui est un tzadik, qui fait du bien, donc lui, en ricochet, il reçoit maintenant des... des intérêts. Il peut redescendre, bien sûr. Il peut redescendre. Il y a une histoire terrible. Rabbi Yonatan Eibschitz, un des grands de la génération il y a 3 siècles. La Rodvache, Kriti Upleti, les plus grands livres qui ont été écrits il y a 300 ans. Rabbi Yonatan Eibschitz, le grand de la génération. Son fils était un brillant élève. Il a demandé à papa, vers l'âge de 18 ans, je vais aller à Londres l'été. Son père dit oui. Il va à Londres, il fait un peu de business comme ça. La finance. À Londres, il paraît que c'est bien la finance. Tchic-tchac, un peu d'argent. Papa, il lui crée un petit télégramme. Laisse-moi encore 2-3 mois, je fais un peu d'argent comme ça. 2-3 mois, et il commence à faire beaucoup d'argent, ça marche bien. Businessman ! Ils ont ça dans le sang. C'est marqué que ceux qui étudient bien la Gemara Nézikin, après, ils sont des requins en affaires. Parce que c'est toute une jurisprudence. C'est toute une histoire d'affaires, sans cesse, dans les... C'est ton cerveau qui travaille des heures et des heures sur toutes les combines les plus communes qu'il puisse y avoir. Après, quand tu es sur le marché, t'es dangereux. Rabbi Eibschitz, c'est le requin des requins. Il va à Londres. Il part à la conquête de Londres. En 2 mois, il est plus revenu. De sa Pologne natale, il a fait beaucoup d'argent. Il est venu, il s'est acheté le titre de comte. Il a changé son nom. Wolf est devenu. Le comte Wolf. Et puis, il commence les goyotes. Ces femmes de ménage, comme ça raconte l'histoire. Et un beau jour, la nuit de Kippour, il est dans son lit. Tout à coup, il voit son père qui vient et qui l'étrangle. T'as pas honte? Quelle honte tu me fais dans Olam Abba? Ou tu fais tchouva ou je t'étrangle? Il se réveille complètement terrorisé. Quelle histoire. C'est un rêve. Quel rêve tordu je viens de faire. Bon, il se rendort. Son père revient, tu crois que tu rêves? Je te rêve pas du tout. Je te prends maintenant, je t'étrangle, ou si tu fais pas de tchouva. Il se réveille de nouveau complètement terrorisé. Bon, il va se faire un thé, quelque chose, il se calme. Un thé la nuit de Kippour. Bon, il se remet de nouveau une dernière fois au lit. Elle dit, le père revient. C'est la dernière fois que je viens. On m'a autorisé spécialement, pour tout, grâce à toute la Torah que j'ai. On n'autorise pas aux gens normalement de venir comme ça. Chaque fois qu'un gosse se comporte mal, son père va venir du ciel lui dire quelque chose. Dernier avertissement. Ou tu fais tchouva maintenant, ou je t'étrangle et c'est terminé. Il se met à secouer comme ça. Lui se réveille déjà hors du lit. Par terre, dans les draps. Et il se termine. C'est pas... Il voit la réalité. Le lit, tout ça, c'est tout. C'est même traîné. Il a fait tchouva, il était à la synagogue. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a fait une tchouva extraordinaire. Donc on voit que... L'impact des enfants... Hein?
Il est pas revenu en bref
ou... Non, non. L'impact des enfants, bien sûr. Et donc les parents sont jugés dans la mesure de leur responsabilité pour leurs enfants, en bien ou en mal. Mais excuse-moi, mais ce que tu as, les enfants que tu as mis au monde et tous les petits-enfants qui mettront tous les usufruits de ce que tu as fait, c'est toujours de ce que tu as fait durant ta vie. Tu peux rajouter une chose que tu n'as pas fait. Tu comprends? C'est toujours, tu as un keren, tu as un capital et tu as des intérêts. Le capital ne changera jamais, le capital c'est ce que tu as fait toi. Donc, on a très peu de temps dans le fini pour créer notre infini. Pour l'infini. Que si on se rendait compte de ça, on deviendrait complètement fou. Pas une seconde. Plus de Torah, plus de Torah, plus de Torah, plus de Torah. Acquérir de l'infini.
Comment on peut savoir, dans ce cas-là, par exemple, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est le père qui est responsable? Ou si c'est le fils? Le père, dans ce cas-là, avait
une... Bon, ça tombe, on ne sait pas. Dieu jugera qui, quoi, comment. Dans quelle mesure les parents sont responsables d'une éducation qui est réussie ou ratée? Là, c'est Dieu qui juge. Ça, on n'a rien à voir là-dedans.
Il y a Abraham et Ishmaël, et Yitzhak et Esav, qui c'est leurs enfants. Et enfin,
ça veut dire, ok, comment, ça, les... bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Il y a eu une nécessité d'Abraham de faire une épuration, de sortir de la grande entité qu'Abraham. Il fallait sortir Esav, il fallait sortir Ishmaël, qui ont fait aussi des grandes choses. Peut-être pas dans le bien, mais en tout cas, il y a des grandes choses. Ce ne sont pas des petits peuples, ce sont des grands peuples, Esav et Ishmaël. Ishmaël est béni. Esav aussi est béni. Aha bechatechie. Tu verras surtout sur ton épée, mais Etzrik l'a béni. Donc c'est pas rien du tout. Il sort de vraiment bien, mais du côté négatif. C'est bon, messieurs? ברוך אדוני אלוהינו מלך העולם, אמן.